Bonjour à chacun.
Que le bon nom du Seigneur soit béni. Quelle grâce de pouvoir le louer, le célébrer, l'admirer, et en même temps de pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. Vous êtes prêts à écouter ce que Dieu a à vous dire, ou à vous redire, ou à vous redire, parce que notre Dieu est patient. La semaine dernière, nous avons abordé un sujet sérieux. Je n'ai pas eu le temps de faire la conclusion, parce que l'heure tournait. Et dans la parabole des dix vierges, dans la prophétie des dix vierges, le Seigneur termine en donnant la solution. Vous la connaissez, la solution. Le Seigneur dit « Veillez ». C'est un des mots que l'on devait prendre avec beaucoup de considération. Qu'est-ce que ça veut dire « Veillez » ? Est-ce que je veille vraiment ? Parce que je suis là, à l'église, quelle que soit ma responsabilité dans l'église, là, avec mes frères et sœurs, que je suis en train de veiller. Je peux être là par routine, par habitude, par train-train. Est-ce que vraiment je comprends que dans ce verbe, dans ce mot, il y a la solution pour être prêt lorsque le Seigneur Jésus viendra me chercher, ou prêt, s'il devait venir me chercher, avant l'enlèvement de l'église. Alors, on pourrait lire quelques textes dans Marc au chapitre 13. Vous savez que Jésus a souvent parlé de l'importance d'être prêt. Et vous avez remarqué que ça fait 3 ou 4 dimanches que j'aborde ce sujet parce que je suis poussé à le faire, car certainement qu'il doit y avoir au milieu de nous des amis, des frères, des sœurs qui ne sont pas prêts à rencontrer le Seigneur. Ce sont des choses sérieuses. Rappelez-vous cette parole de Jésus à Pierre, « Que t'importent les autres, toi, suis-moi. » C'est quelque chose de sérieux. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Parce que vous voulez dire, oui, mais peut-être que lui, là-bas, il n'est pas prêt, il est rebelle, il est là, dans son truc à lui. D'accord. Mais vous, est-ce que vous pouvez tous dire ce matin, vous et moi, est-ce que nous pouvons tous dire « Oui, je suis prêt ». C'est une question solennelle, c'est la chose la plus importante, à savoir si on est prêt. Jérôme disait tout à l'heure, je crois, dans l'introduction des chants, que la chose la plus importante, c'était la repentance. C'est vrai. Mais c'est bien de bien commencer par une bonne repentance, mais c'est quand même bien de continuer et d'être toujours prêt. Parce qu'il y a des gens qui ont bien commencé, et qui ont très mal fini. Alors dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, au verset 23, il y a ce verset que j'aime citer de temps en temps, parce qu'il nous met tous d'équerre dans le sens où tout ce qu'on avait besoin de savoir, Dieu nous l'a dit. Marc 13, verset 23, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Est-ce que vous faites partie de ces gens? Oui, Dieu aurait pu nous en dire davantage sur la science, sur l'histoire. Il y a des gens, vous savez, ils voudraient savoir si les jours de la Genèse sont des jours de 24 heures ou des jours de 1000 ans, parce qu'il y a chacun a sa version. Est-ce que c'est important de savoir si les jours où Dieu a créé les cieux et la terre, c'est des jours de 24 heures ou c'est des jours de 1000 ans? Est-ce que c'est important pour vous? Franchement. Ça change quoi? Ça changerait quoi? Rien. Par contre, tout ce qu'on avait besoin de savoir, le Seigneur nous l'a annoncé. Verset 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez, et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, je répète, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Voilà la prédication de ce matin. comprendre ce que ça veut dire veiller. Vous avez vu, il indique à chacun sa place. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je sais quelle est ma place dans le royaume de Dieu, je sais ce à quoi Dieu m'appelle, je sais ce qu'il me faut faire, je sais où je dois être, je sais comment je dois me comporter. Veillez, ce que je le dis à tous. Veillez, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Dans Luc, on peut le lire plus loin, on l'a lu dimanche dernier, mais ça fait rien. Je pense que c'est très très bien de le relire. Luc 21, dans le même contexte. Le Seigneur Jésus adresse une exhortation. Luc 21, 35, ce jour qui arrive, et vous le savez que ce jour arrive. Si vous êtes, même les gens qui ne sont pas chrétiens se disent, mais il y a quelque chose qui va nous tomber sur la tête. Même les gens qui ne sont pas chrétiens soupçonnent qu'il va bien se passer quelque chose. Alors, pour vous dire, Luc 21, verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On pourrait prendre une concordance et voir toutes les fois où le Seigneur utilise ce mot « veiller » pour nous aider à nous préparer à le rencontrer. Moi, je suis affolé de voir la quantité de chrétiens qui sont habitués à ce vocabulaire. Bien sûr que dans les églises évangéliques, nous sommes habitués à utiliser certains mots, certaines expressions, comme l'enlèvement de l'église, c'est tout à fait banal pour certaines personnes, mais ce n'est pas parce que vous entendez des choses que vous connaissez par cœur que vous êtes prêt. Quand il est dit, par exemple, à celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le salut. On va lire encore un autre texte, en Proverbe 8. Je m'autorise à prendre ces textes parce que je pense qu'ils sont importants. Proverbe 8, un texte qui rappelle ce que l'on vient de lire d'une manière différente dans l'évangile de Luc. Je pense beaucoup aux frères et sœurs qui ne sont pas prêts, vous savez. Jésus un jour a dit à des pasteurs, vous sondez les Écritures, c'est quelque chose d'une portée terrible, vous sondez les Écritures, c'était bien ce qu'il faisait. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle et vous ne voulez pas venir à moi. Ils sondaient les Écritures, ils étaient calés dans l'enseignement, mais ils ne venaient pas à Jésus. Certains d'entre vous, entre guillemets, vous êtes calés, vous êtes capables de citer plein de trucs bibliques. La doctrine, la théologie, vous êtes même capables peut-être d'anticiper tout ce que je vais dire dans la prédication. Vous croyez que c'est ça qui fait de vous des chrétiens prêts ? C'est beaucoup plus sérieux. Proverbe 8, 32. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille. Comment c'est dans votre Bible ? Qui veille chaque dimanche ? Qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et le verset que je cite régulièrement, eh bien on va le lire dans le livre du Deutéronome. Au moins vous ne pourrez pas dire que celui-là je ne vous l'ai pas dit. Deutéronome chapitre 4. Enfin, moi je sais que c'est un verset qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et certainement, c'est ce verset qui m'a amené à faire ces prédications. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Vraiment. Vous savez, quand je réalise que plusieurs parmi nous ne sont pas prêts, ça me brise le cœur. Bien sûr que vous allez me dire, oui, mais c'est prophétisé, ne te prends pas la tête, etc. Mais quand même, Dieu veut que vous soyez tous prêts. Tous. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi. Éveille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Vous avez des enfants ou des petits-enfants ? Combien c'est important de veiller les uns sur les autres ? Est-ce que c'est écrit « veiller les uns sur les autres » Est-ce que vous veillez les uns sur les autres? C'est ça l'Église, de veiller. Lorsqu'on entend certains propos dans la bouche de certains frères, ou sœurs, bien sûr, des propos inquiétants, je pense qu'on devrait dire, on devrait avoir cette liberté, mais le problème d'aujourd'hui, c'est que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, le gars, il s'en va. Les gens n'acceptent plus d'être repris. Vous dites à quelqu'un, tu sais, tu n'aurais pas dû parler comme ça. Oh, mais écoutez, Dieu voit mon cœur. Vous voyez, en plus, les gens, ils s'autorisent. Ils s'autorisent, mais justement, Dieu voit, oui, que ça ne va pas. Et je pense que nous devrions, si nous avions cette maturité, avoir cette liberté de veiller les uns sur les autres. Et si quelqu'un... Je n'ai pas imaginé que quelqu'un dise un mot grossier. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais imaginons, parce que là, ça s'est arrivé. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait reprendre la personne et dire, mais quand même, pourquoi tu as utilisé ce vocabulaire? Est-ce qu'on peut le faire, ça? Est-ce que vous accepteriez? Je ne sais pas si ça vous arrive, j'espère que ça ne vous arrive pas, mais imaginons que ça vous arrive de dire un mot vulgaire, parlons même pas d'un mot grossier. Est-ce que vous acceptez que l'on vous reprenne? Quelqu'un me disait dernièrement, cette personne m'a insulté, un chrétien. Je pense que c'est si la personne n'a pas réalisé en insultant que ça n'allait pas, vous comprenez bien que cette personne est en danger. Et nous le portier, c'est peut-être moi le portier de l'Église, pour reprendre le texte de l'Évangile, mais je sais que nous devons veiller les uns sur les autres. Et que soyez bénis si quelqu'un vous reprend avec amour, c'est sûr qu'il faut le faire avec amour. Mais même, si quelqu'un manquait, on n'est pas tous adroits, on manque des fois de tact, mais quand même, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être repris? Moi, je le pense. Alors, on a chanté ce merveilleux cantique. Lorsque j'ai proposé à Jérôme de faire les chants, il m'a renvoyé un petit texto en me disant, est-ce que vous voulez que je fasse chanter un cantique? Et justement, je voulais qu'il fasse chanter, enfin, j'aurais souhaité, viens mon âme te réclame. Je dis, bon, non, c'est pas grave, je ne l'ai pas renvoyé. Et il l'a pris. On l'a chanté tout à l'heure. Viens, mon âme te réclame. Il est bon ce cantique, il est bon. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que mon âme, parce que mon âme, c'est le corps c'est bien, on prend soin de son corps, mais mon âme, dans quel état est mon âme ce matin? Est-ce que vous êtes, quand je dis vous, je me mets avec vous, ne vous inquiétez pas, est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Mais dans quel état est mon âme? Comment parleriez-vous de votre âme ce matin? Dans quel état est-elle? Vous pouvez parler de votre corps. Est-ce que vous pouvez parler de votre corps? Oui. Vous dites, tiens, mon corps, ben moi, en ce moment, j'ai un rhumatisme. Voilà. Le corps, on peut en parler. Est-ce que vous pouvez parler de votre corps? Le corps, on y fait attention. Est-ce qu'on fait attention à son corps? Alors, on le bichonne, on le soigne, on se douche, on prend soin de soi. Oui ou non? On met son costume, une jolie cravate. Si on s'esquinte une dent, vite, surtout si c'est devant. On va chez le dentiste parce qu'il ne faut pas que je me retrouve avec une dent esquintée devant. Derrière, ce n'est pas trop grave. Mais au moins, mon corps, j'en prends soin. Oui ou non? Est-ce que vous aimez prendre soin de votre corps? Ben oui, quand même. Je pense qu'on doit prendre soin de son corps, c'est important. Mais si certaines personnes prenaient soin de leur corps comme elles prennent soin de leur âme, je me ferais du souci quand on les croiserait. Vraiment du souci. Alors qu'est-ce que vous dites de votre âme ce matin? Vous dites, ben, mon âme va bien, mon âme va très bien. Alors j'ai cherché hier dans la concordance, vous savez, avec une concordance, vous trouvez avec un mot, vous cherchez, tac, vous tapez âme, et vous avez toutes les fois dans la Bible où il nous est parlé de l'âme. Et dans la Bible, vous voyez des hommes, des femmes, qui ont parlé de l'état de leur âme. Et c'est impressionnant, mon âme est abattue. Est-ce que ça peut arriver que notre âme est abattue? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre âme soit abattue? Mon âme est affamée, mon âme est découragée. Est-ce que ça peut arriver que notre âme soit découragée? Notre âme est nonchalante, notre âme languissante, mon âme est souffrante, mon âme est dans l'amertume. C'est Anne, son âme était dans l'amertume. Ça ne l'a pas empêché d'aller à l'église, de faire une très belle expérience avec Dieu. Mon âme est attachée à la poussière. Tu sais les angoisses de mon âme. Mon âme est desséchée. Mon âme est dans la détresse. Mon âme est brisée. Mon âme est ébranlée, mon âme pleure de chagrin. » Dans l'évangile de Luc, il nous est dit qu'après l'enlèvement de l'Église, les hommes rendront l'âme de terreur des choses qui arriveront sur la terre. Les hommes rendront l'âme de terreur. Parce que les gens ne réalisent pas ce qui va se passer après. Pourquoi les gens ne veuillent pas notre frère? Dans les chants, disait, beaucoup de gens ne cherchent pas la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas goûté la présence de Dieu. Quand vous avez goûté à la présence de Dieu, vous savez qu'il n'y a rien de plus beau que la présence de Dieu. Tant que vous n'avez pas goûté, bon, présence de Dieu, oui. Mais la question, je vous la pose, dans quel état est votre âme? Quelle est vraiment la relation que vous avez avec Dieu? Ces questions, elles sont sérieuses. Il faudrait que vous puissiez répondre du tac au tac au Seigneur. Pas à moi, mais au moins au Seigneur. Dit, mais quelle est la relation que j'ai avec toi? Est-ce que c'est la relation que j'ai avec certains voisins? Vous avez vu avec certains voisins? Bonjour. Bonne journée. C'est fini. Il n'y a pas une relation comme ça avec certains voisins? Dites-moi. Bonjour, bonsoir. Bonne journée. C'est tout. Moi, il y a des voisins, je ne les connais que comme ça. Bonjour, bonsoir, bonne journée. Ben, ils sont sympas, mais ça s'arrête là. Est-ce que je peux parler que j'ai une véritable communion avec mes voisins? D'après vous, je les connais. Mais pour certains, j'ai peur que ce soit un peu comme ça avec Dieu. Le Seigneur nous a donné un canevas de prière. Vous connaissez le Notre Père? Qui ne connaît pas le Notre Père? Et dans cette prière, Dieu dit, Jésus dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alors, vous allez me dire, mais moi je bénis Dieu, le pain je l'ai, tout à l'heure je vais rentrer, je peux acheter une flûte, je peux même acheter un morceau de gâteau, j'ai de la viande, le pain, mon congélateur il est plein, alléluia. Est-ce que c'est bien d'avoir le congélateur plein? Est-ce que c'est bien d'avoir le congélateur plein? Je pense, mes frères et sœurs, qu'il faut être... On le verra tout à l'heure. L'importance d'être reconnaissant. Nous, on n'y fait pas attention. On n'y pense même pas. Il y a des gens, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi. Est-ce que vous savez qu'il y a des millions de gens sur la Terre, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger? Ils ne savent pas s'ils vont manger, non, ce qu'ils vont manger, mais ils sont pas sûrs de manger. Et quand Jésus parle du pain, je ne pense pas qu'il parle que du pain matériel. Il parle du pain spirituel. Alors, beaucoup de gens sont dans l'erreur à cause de la sincérité. Beaucoup de gens sont sincères. Mais comme je l'ai dit, la sincérité, ce n'est pas le critère de la vérité. Le critère de la vérité, c'est la parole. Il y a des gens, ils sont sincères. D'ailleurs, il y a un petit proverbe qui dit « Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Il y a des gens, ils sont sincères. C'est un bon proverbe. Parce qu'il exprime bien que les gens... Parce qu'ils sont sincères avec eux-mêmes. Ils sont sincères avec ce qu'ils pensent. Mais la sincérité, elle doit être avec ce que Dieu dit. Par exemple, quand les gens, Dieu dit, Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon? Bon, donc, si Dieu est bon, on s'en sortira toujours. Ça tient debout, oui ou non? C'est sincère, ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Que la bonté de Dieu, elle nous pousse à la repentance. Voilà, c'est clair. Il y a des gens, oh Dieu est bon, c'est bon, on verra après, si c'est vrai tout ça, il est bon, j'irai au paradis. Voilà, ça c'est la sincérité. Mais la vraie sincérité, c'est par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur sa bonté? La bonté, vous l'avez cité, me pousse à la repentance. Et Dieu sait si certains sont en danger. Et je sais que certains sont en danger. Je le sais pertinemment. Et si Dieu demande d'une manière solennelle, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, si vous ne veillez pas sur votre âme tous les jours de votre vie, vous êtes en danger. Et ne vous amusez pas au nom de la sincérité à dire, oh ben moi j'ai pas le temps, moi si tu savais le boulot que j'ai, si tu savais avec les gosses, et il me faut traverser là, tu n'es pas à ma place. Il y a des gens qui me disent. Combien de gens, oh, monsieur, vous n'êtes pas à ma place, monsieur Gros. Mais je voudrais des fois que vous me suiviez pendant la semaine. Vous verriez. Et si Dieu, dans sa bonté, dans sa sévérité, comme vous voudrez, c'est pareil, vous dit, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, il faut le faire. Il faut le faire. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pour vous autoriser à dire, j'ai pas le temps. Mais qui êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous de pouvoir dire, ben moi j'ai pas le temps, si tu étais à ma place? Eh bien moi je vous dis que si vous parlez comme ça, vous êtes en danger. Vous ne le réalisez pas, vous ne le voyez pas. Vous êtes en danger. Votre âme, elle ne vous appartient pas. Vous croyez que votre âme vous appartient ? Elle ne vous appartient pas, votre âme. Un jour, Jésus a dit, vous connaissez cet homme qui avait bâti des il avait fait des récoltes extraordinaires, il avait bien bossé, c'est très bien. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent dans notre travail qu'on est intelligent spirituellement. Il avait travaillé, et il a dit, bon, voilà ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, je mettrai ma récolte, et je dirai à mon âme, tu as bien travaillé, mange, bois, repose-toi, réjouis-toi, tatati, tatata, voilà, et... Une voix se fait entendre, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Notre âme ne nous appartient pas. Dieu la reprend quand il veut. Est-ce que vous le savez ? Quand il veut, vous êtes en très bonne santé ou vous êtes malade. Ce n'est pas parce que vous êtes malade que vous allez mourir. Ce n'est pas parce que vous êtes en très bonne santé que vous allez vivre. Votre âme, elle appartient à Dieu. Votre voiture, vous l'avez achetée, elle vous appartient. Votre maison, elle vous appartient. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez payée, je ne sais rien. Ou vous êtes en train de la payer, vous pouvez dire, oui, ma bagnole, elle est à moi. Oui, c'est vrai, vous avez raison, elle est à vous. Votre maison, elle est à vous, c'est bien, c'est tant mieux, façon de parler. Mais votre âme, elle n'est pas à vous. Dieu peut vous la redemander, et Dieu nous la redemandera. Et si le Seigneur dit, veille attentivement sur ton âme, c'est quelque chose qu'il vous faut prendre au sérieux. Et je rappelle à tous ces chrétiens qui s'autorisent au nom de ceux qu'ils voudront, « j'ai pas le temps ». Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui ne mangerait que le dimanche matin ? Physiquement, quelqu'un mangerait que le dimanche matin. Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que vous pourriez lui dire, « écoute, si tu manges que le dimanche matin, tu vas avoir un problème physique. » Est-ce que c'est pas vrai ? Vous êtes d'accord ? Oui ou non ? Quelqu'un qui mangerait même un jour sur trois, est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Vous lui dites, écoute, tu vas avoir des problèmes, hein ? Tu vas avoir des carences, etc. Vous le savez, mais la personne, de toute façon, ne va pas s'y atteler parce qu'elle sait que c'est vrai. Mais elle ne comprend pas que spirituellement, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui me... Je suis poussé à le faire. Vous savez ce que je vous dis ? Vous pourriez dire, mais Monsieur Gault, ça fait 4 fois qu'il reprend le même sujet, peut-être dit différemment, mais 4 fois qu'il reprend. Eh bien, c'est peut-être pour toi. En temps. C'est sérieux, cette affaire. Vous qui vous gargarisez peut-être de dire, ah, moi, mon psaume préféré, c'est le psaume 23. Ah, moi, je le connais par cœur. Tiens donc, vous le connaissez par cœur ? Vous le connaissez par cœur ? On y va dans le psaume 23 ? Juste quelques instants. Il y en a qui le disent, ça ? Mon psaume préféré, c'est le psaume 23 ? Il y en a qui le disent ? Ah, il y en a. Combien de... Il y a même des inconvertis, vous voyez ? C'est pour vous dire. Hein. Ça ferait sourire, presque. Dans le psaume 23, David exprime quelque chose par rapport à son âme. Il vit quelque chose avec Dieu. Il vit vraiment quelque chose avec Dieu. Donc, il le dit. Il l'exprime. Il commence avec cette... Vous savez, il faut que vous compreniez bien. Dans le Pentateuque, il est écrit que Dieu est le berger d'Israël. Vous l'avez peut-être lu, ça. Dieu est le berger d'Israël. Bon, quand vous voyez le peuple d'Israël, laissez-moi vous dire qu'il ne pouvait pas faire cette prière. Mais David, lui, comme il vivait quelque chose avec Dieu, il pouvait dire « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et au verset 3, il dit quelque chose qui est évident parce qu'il le vit, il restaure mon âme. Et puis il continue, il me conduit, etc., 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 etc. Mais ce psaume n'a aucune raison d'être si vous ne pouvez pas dire « il restaure mon âme ». Et vraiment, mais ce sont des questions simples. Un enfant, les enfants qui sont là d'ailleurs, peuvent comprendre cette prédication. Est-ce que vous pouvez dire, oui, le Seigneur restaure mon âme ? Est-ce que vous pouvez le dire ce matin ? Est-ce que là, vous qui êtes ici, vous pouvez dire, oui, mon âme, elle est restaurée parce que le Seigneur est mon berger ? Alors, on pourrait poser la question autrement. Qui est-ce qui a besoin d'être restauré ? Qui c'est qui a besoin d'être restauré ? Qui ? Alors, celui qui s'est jamais occupé de son âme, si vous n'êtes pas passé par la repentance, si vous n'êtes pas passé par la conversion, si vous n'êtes pas né de nouveau, eh bien votre âme a besoin d'être restaurée. Je pense aux enfants, aux ados, aux nouveaux. Vous découvrez l'Évangile, vous dites, tiens, moi je suis catholique, moi je suis protestant, ou même j'ai grandi dans cette église, mais je n'ai jamais vraiment compris ce qu'était la croix. Eh bien, votre âme a besoin d'être restaurée. Complètement. Les ados qui étaient là, qui venaient, qui suivaient, vos parents sont chrétiens, des fois ça vous saoule, comme vous dites, des fois ça vous fait plein plaisir parce que vous avez la protection du Seigneur, mais si vos parents sont enlevés, je ne sais pas si vous vous rendez compte le désarroi dans lequel vous allez vous trouver, les jeunes, les ados. Si quand vos parents vont être enlevés, si vous restez seul dans votre maison. Ce sont des choses qu'il faut dire, il faut les dire. Ce sont des choses qu'il faut absolument dire et que le diable ne veut pas qu'on dise. Mais les jeunes, ou vous qui êtes, oh moi j'ai ma religion, vous savez monsieur Hugo, moi j'ai ma religion, mais oh, ça ne veut rien dire, même la nôtre elle ne veut rien. Ce n'est pas la religion qui va vous sauver. La religion ça ne vous sauvera pas. Moi monsieur Hugo, on me l'a fait, moi vous savez j'ai ma carte monsieur Hugo. J'ai ma carte. Baptisé tel jour, là dans telle église, par tel homme de Dieu. C'est monsieur un tel qui m'a baptisé. Regardez monsieur Hugo. Alors, les gens ils sont là, mais... Mais votre nom, d'accord, il est inscrit sur un registre d'une église. Bon, mais votre nom, est-ce que vous pouvez dire qu'il est écrit dans les cieux? Parce que la Bible parle de nom écrit. Votre nom est-il écrit dans les cieux? Vous allez me dire, ah bon, mon nom est écrit dans le ciel? Eh bien ouais, c'est une bénédiction. Ça. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? Quelle bénédiction? Votre nom écrit dans le ciel. En tous les cas, il y a un travail dans le ciel qui ne doit pas être marrant. C'est qu'il y a quelqu'un qui est chargé d'effacer des noms. Ce doit être le travail le plus terrible au ciel. Je ne sais pas si c'est toujours la même personne qui fait ça au ciel, mais ça ne va pas être marrant. D'effacer des noms. Vous aimeriez, quand vous passerez devant Dieu, qu'on vous dise Dupont-Jacqueline. Il n'y a personne qui s'appelle Dupont-Jacqueline. Bon, bon. Dupont-Jacqueline, non. Il n'y a personne. Ah, peut-être il y était, mais ça, apparemment, ça a été effacé. Vous allez me dire, mais M. Hugo, c'est un peu virtuel tout ça. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que des gens n'auront pas pris le temps de dire, mais je vais à l'église, je lis ma Bible vite fait, vite, 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 un verset. C'est ça votre relation avec Dieu, comme je parlais avec les voisins, que bonjour, bonjour, bonne journée. C'est ça ma relation avec Dieu. Si vous ne veillez pas tous les jours, écoutez bien, parce que je sais que certaines ont laissé le diable les tromper avec ça. Si vous ne veillez pas tous les jours, vous êtes en danger. Si vous n'avez pas obtenu le pardon ou réobtenu le pardon, parce que on peut perdre ces choses, on peut les perdre. Vous le savez qu'on peut se retrouver nu devant Dieu. Achète des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas à des chrétiens, il parle. Peut-être que vous avez besoin de retrouver le pardon de Dieu d'une manière réelle, un pardon profond. Il n'y a rien de plus beau que d'être pardonné. C'est David qui l'a dit, mais heureux l'homme dont le péché est pardonné. Après, surtout que lui, il avait mis une couche. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné, à qui la transgression est remise. Si vous avez été léger dans votre conversion, vous avez besoin d'être restauré. Il y a des églises où on est léger avec la repentance, avec la conversion. Mais ne le soyez pas. Si vous n'avez plus de communion avec Dieu, laissez-moi vous dire que vous avez besoin d'être restauré. Oh, moi je lis la Bible, mais moi j'y comprends rien. C'est bon quand vous l'expliquez encore où ça passe, bon, mais moi je ne la lis pas, j'y comprends rien. Si vous parlez comme ça, votre âme a besoin d'être restaurée. Parce que je crois que même si on ne comprend pas tout, à force de lire et de lire et de relire, eh bien le Seigneur nous éclaire. C'est comme les notices pour montrer des meubles des fois. Vous savez, vous avez déjà monté un meuble, vous lisez le truc, vous dites, moi je ne suis pas très fort pour ça. Je lis, j'y comprends rien. Et au bout de la 5 ou 6, ah oui, je commence à comprendre. Moi c'est pareil, avec l'Apocalypse, la première fois que j'ai lu l'Apocalypse, il y a longtemps, hein. Maintenant c'est un plaisir parce que je comprends. Mais ne nous autorisons pas à dire « Ah, moi je ne comprends pas, moi je ne comprends pas. » Mes frères et sœurs, lisez, Dieu vous éclairera. Lisez et le Seigneur vous éclairera. Veille sur ton âme tous les jours de ta vie. Oui, si votre relation avec Dieu est superficielle, eh bien, vous avez besoin d'être restauré. Si je donne que quelques minutes à Dieu tous les jours, c'est que j'ai besoin d'être restauré. Alors là aussi, vous allez me dire, monsieur, je n'ai pas le temps. Écoutez, ce n'est pas vrai. Vous avez le temps de faire telle ou telle chose. Vous avez peut-être le temps de faire demi-heure de sport. Et c'est bien, je vous encourage à le faire. Vous avez peut-être demi-heure pour regarder les infos, je ne sais rien, ou aller sur Facebook, si les copains et les copines vous ont écrit. Vous avez le temps. Oui ou non? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a le temps? Et vous allez pouvoir vous présenter devant Dieu en ayant trompé le pasteur, mais ça, c'est pas grave. Vous, c'est surtout vous que vous êtes trompé. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. C'est vous qui vous êtes trompé en disant, mais moi, j'ai pas le temps. Mes frères et sœurs, ce que Dieu vous demande, vous avez le temps de le faire. C'est quelque chose de sérieux. Beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts parce qu'ils auront ce genre de prédication. Oui, peut-être certains disent, mais écoutez, personne ne comprend le désarroi qu'il va y avoir sur la terre après l'enlèvement. Je ne sais pas si les gens, ils ont compris. On parlait de la présence de Dieu, mais je ne sais pas si on a compris ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Quand ce dictateur va émerger, en plus, franchement, sans être prophète, je peux vous dire que tout ce que vous voyez, tout, mais c'est d'une clarté, est en train de préparer la venue d'un président européen. Mais écoutez-moi, et laissez-moi vous dire que Hitler à côté, écoutez bien, je le dis pas comme ça parce que je le pense, je sais que ça vient du Seigneur. Hitler à côté, c'est un gamin. C'est pas des blagues ce que je vous dis. Et qu'une fois que l'Église va être enlevée, que le Seigneur ne sera plus assis sur le trône de la grâce, personne ne s'imagine comment ça va se passer. Il faudra accepter qu'on nous mette sur la main droite ou sur le front une marque. Tout ça, c'est vrai. Il y aura un système monétaire mondial de cette façon-là. Et que ceux qui n'acceptent pas la marque de la bête, ils seront quoi? Ils sont tués. Et ceux qui l'accepteront, ils seront perdus pour l'éternité. C'est écrit ou c'est pas écrit, ça? C'est ce qui va arriver. Et on est aux portes de ces choses. Et le Seigneur, dans son amour inlassable, dit ce matin encore, veillez tous les jours. Celui qui ne veille pas, vous ne serez pas prêt. Vous pouvez... Mais écoutez, arrêtez de vous tromper vous-même. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens, ça fait la quatrième fois qu'ils entendent ce genre d'exhortation, et ils sont encore capables de résister. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le danger dans lequel certains d'entre vous vous trouvez. Ça fait 4 dimanches que je prêche sur ce sujet, et il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris que tous les jours, ils devaient se tenir devant Dieu. C'est grave, pour moi c'est grave, moi ça me fait peur pour vous. Après, c'est votre problème. On vous rappelle l'image dernière? Dieu dit à Ézéchiel, dis-le, avertis-les. Fais-le. Et Dieu est en train de vous avertir pour vous dire, mais réfléchis. Vous êtes déjà passé à côté de maisons en ruine? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer à côté d'une maison en ruine? Vous savez où cette maison? Je crois qu'on a mis une photo. Hein. Une maison en ruine. Ah, oula, c'est petit. Vous la voyez? Celle de gauche. Avant et après. Je ne sais pas si on peut les agrandir. Ouais. Quand vous voyez une maison comme ça, vous la voyez un peu? Non, au fond, non, vous ne la voyez pas. Bon, c'est pas grave, Sophie. Mais en fait, vous êtes tous passés devant une maison en ruine. Hein. Vous avez dit, oula, c'est un baraque. Moi, j'aimerais pas y habiter dedans. Oui ou non? Hein. Oui, celle-là, vous voyez? Il y a des maisons comme ça. Mais il y a des âmes, elles sont exactement pareilles. Et s'il y a des gens, et si la Bible parle des ruines, c'est pas pour rien. Alors, est-ce que Dieu peut réparer les ruines? Est-ce que Dieu... Voilà, parce que le problème, il est là. Alors, avant de parler des ruines, il faut comprendre une chose. Si votre âme est en ruine, ça va pas se passer comme ça. Seigneur, tu le vois? Non. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Je pense, sincèrement, je vais le dire, ce que je vais dire, écoutez-moi bien. Je pense que les pasteurs ne sont pas toujours spirituels. Ça fait que nous manquons de douceur ou de fermeté. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Dieu ne les fera pas. Regardez dans le psaume 107. Je voudrais que vous, mais vraiment que cette semaine, vous preniez le temps de méditer ce psaume. Tiens donc, dans votre culte journalier, vous demandez un nom. Dans votre culte de tous les jours. Dans le psaume 107, regardez bien, je voudrais que vous compreniez vraiment. Parce que je sais que ce que je dis est vital. Certains d'entre vous, vous qui faites votre culte que deux ou trois fois par semaine, c'est pour vous cette prédication. Vous qui dites, oh moi j'ai pas le temps. Je vous en supplie, arrêtez de dire ça. Le diable, il se frotte les mains quand vous dites ça. Dans le psaume 107, verset 4. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Tiens donc un autre mot. Leur âme était languissante. Ah, leur âme est languissante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qui loue l'Éternel pour sa bonté. Verset 11. Ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilièrent leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent. Personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens, qui loue l'Éternel pour sa bonté. Verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse, qui loue l'Éternel pour sa bonté. Verset 26. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était... Comme elle était leur âme, éperdue. En face du danger, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, les ondes se turent, et ils se réjouirent de ce qu'ils avaient s'est apaisé. L'Éternel les conduisit au port désiré, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Vous avez remarqué quelque chose? Dieu n'est intervenu que quand ils ont crié. Crier, ça n'a rien à voir avec les décibels. Il y a des églises où on crie. Alors là, je laisse moi vous dire que c'est vraiment le comble de l'ignorance. Crier dans la Bible, ça veut dire que la foi est plus forte que le doute. C'est ça que ça veut dire. Mais bien sûr qu'on peut l'exprimer plus fort, par une voix plus forte. Mais ce n'est pas parce que vous allez crier fort que votre foi elle est forte. Ça n'a rien à voir. Mais vous remarquerez que malgré ça craignait quand même. Dieu n'est intervenu que quand ils ont crié à Dieu. Et il y a des chrétiens, ils attendent. Ben, si le Seigneur y veut, c'est comme pour le salut. Il y a des gens, si Dieu veut me sauver, ben, il n'a qu'à me sauver. Mais moi, je trouve qu'il a payé cher, le Seigneur, pour qu'on soit sauvé. C'est se moquer de Dieu que de dire, s'il veut me sauver, mais qu'il me sauve. Laissez-moi vous dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si vous ne vous repentez pas, vous ne serez pas sauvés. Et vous remarquerez dans ce psaume, mais lisez-le, relisez-le, méditez-le. Vous verrez que Dieu s'est fait un plaisir d'intervenir, mais il faut que ça vienne de vous, de nous. C'est à nous de dire, Seigneur, j'en ai marre, j'en ai assez. Il faut qu'il se passe quelque chose. Tu me parles pour la quatrième fois du danger dans lequel je me trouve. Ce mot veiller est un mot tellement simple et pourtant tellement vital. Mais c'est ça, crier à Dieu. Mais attends, il faut que je m'y mette. Plutôt que de critiquer, plutôt que d'être là, tout le temps en train de râler. Il y a des gens, ils ont un témoignage lamentable. Parce que justement, ils n'ont pas laissé la grâce de Dieu les envahir, et à la place de faire du bien, ils saoulent tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Il n'y a pas des gens, des fois, que vous avez même évité, parce que de peur que... Est-ce qu'elle est, dites-moi la vérité. Allez, on baisse la tête, on pense à personne, bien sûr, mais est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors quand on fuit un gars qui n'est pas converti et qui est enténébré, je comprends. Mais quand c'est arrivé de fuir les chrétiens parce qu'ils étaient négatifs, mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu quelque chose. Quand quelqu'un a la paix, eh bien, il va procurer la paix. C'est évident. Et quand vous lisez ce psaume, c'est quelque chose qui... Regardez le dernier verset du psaume. Ce sont des choses sérieuses, mes frères et sœurs. Que celui qui est sage prenne garde, c'est la même chose que veiller, en fin de compte. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Voilà une façon de veiller. Je veux être attentif. C'est une grâce d'avoir un petit temple comme le nôtre, climatisé, chauffé, aéré. Est-ce que c'est une bonté du Seigneur? Est-ce que c'est une grâce d'avoir des frères et des sœurs? Regardez les frères et sœurs à côté de vous. Est-ce que c'est une grâce? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont seuls? Regardez-les encore. Allez, encore. Est-ce que c'est pas une grâce? D'avoir un pasteur, est-ce que c'est une grâce? Oui? Je me souviens de cette sœur qui m'appelait il y a un an, deux ans. Elle me disait, Monsieur Gault, priez parce qu'on a un pasteur, il ne va pas bien, il faut qu'il parte. Écoutez, il faut prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Non, mais je suis sûr qu'il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Moi, j'ai prié, Seigneur, que ta volonté soit faite. Elle m'appelle quelques mois après. Monsieur Gault, c'est formidable. Le Seigneur, il m'a exaucé. Le pasteur, il est parti. Il y en a un nouveau. Ben, je dis, écoutez, si c'est la volonté de Dieu. Bon. 6 mois après, elle m'appelle. Hein, Monsieur Gault. Le pasteur qui est remplacé, il est pire. Vous savez, je crois, je ne sais pas, mais Dieu est souverain, il sait le pasteur aussi dans chaque église qu'il faut. Oui ou non? Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est une grâce d'avoir une église, d'avoir un pasteur, d'avoir des frères, d'avoir des sœurs. C'est une grâce ou non? C'est écrit. Qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. J'espère que vous êtes attentif. Avoir des yeux. Il y a Natacha, elle est là, notre... Oui, Natacha, oui, elle est là. Vous savez que nous avons une sœur qui est non-voyante, tout le temps là, fidèle. Je connais son témoignage. Que Dieu vous bénisse, Natacha. Est-ce que vous savez que c'est une grâce d'avoir des yeux? Natacha, vous êtes d'accord avec moi? Vous entendez, mes frères? Vous savez que c'est une grâce d'avoir des yeux? Et nous devrions être continuellement attentifs aux bontés de l'Éternel. Alors, je veux terminer avec cette pensée qui revient parce qu'elle revient continuellement dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Ésaïe 58. Moi, c'est un texte qui me bouleverse parce que le Seigneur y voit quand ça va pas. Lui, il le voit. Et je voudrais surtout parler à ceux qui ne savent pas. Si vous, écoutez, on va résumer, on va faire simple. Si vous ne faites pas votre culte tous les jours, ça ne va pas. Acceptez-le. Vous voulez être prêt quand Jésus va revenir? Est-ce que vous voulez être prêt? Écoutez-moi, frères et sœurs, soyez sérieux. Si vous ne veillez pas attentivement sur votre âme tous les jours, moi je vous le dis de la part du Seigneur, vous êtes en danger. Alors, la grâce, c'est que Jésus est encore assis sur son trône, béni soit son nom. Et qu'est-ce qu'il dit? On va lire un verset, le verset 12. Ésaïe 58. Les tiens rebâtiront où? Sur des anciennes ruines. Ouf. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Ésaïe 51, tiens, on va lire. Je l'ai cité l'autre jour. Ésaïe 51, verset 3. Je ne sais pas si ce verset vous fait du bien, mais moi oui. Ésaïe 51, verset 3. L'Éternel a pitié de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem. Il a pitié de toutes ses ruines. Gloire à Dieu. Hier, je lisais le livre de Daniel. À un moment donné, je n'avais jamais fait attention, pourtant je connais le livre. Daniel 9, 18 dit, « Mon Dieu, regarde nos ruines. » C'était un homme de Dieu. Et il dit à Dieu, « Mais regarde les ruines. » Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, notre corps, nous, on s'en occupe. Le corps, ça fait qu'on ne peut pas savoir si quelqu'un est en ruine spirituellement. Même si son corps est en très bon état. Une maison, on le voit à l'extérieur. Mais on peut, ce matin, puisqu'on va prendre le pain et le vin, on peut dire, mais Seigneur, tu vois ma vie, ce qu'elle est vraiment. Tu vois l'intérieur. Tu vois mes échecs. Tu vois mes ruines. Tu vois mon cœur, il est ruiné. Cet échec, cette épreuve. Je ne sais pas, peut-être que vous avez traversé un divorce. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Mais Dieu est catégorique. L'Éternel a pitié
de toutes nos ruines. Que son nom soit béni. Et ce matin, vous pouvez vraiment expérimenter la grâce de Dieu d'une manière totale. Est-ce que vous le croyez que vous pouvez expérimenter? Il y a un frère parmi nous, notre frère, il y a quelques jours, il était ici pendant un culte. Alors il a écrit son témoignage. Notre frère a donné son corps au Seigneur il y a quelques années. Mais malgré le fait qu'il a donné son corps au Seigneur, qu'il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, il avait un problème d'angoisse profonde. Parce qu'un jour, il y a 7 ans, oui, j'ai été victime d'un malaise sur l'autoroute. Sur l'autoroute, il a eu un malaise. Et suite à ce malaise, bien sûr, il a fait des crises d'angoisse. Alors je vous le lis. Suite à ce malaise, ça n'est suivi des crises d'angoisse terribles, à tel point que je ne pouvais plus conduire ni monter en voiture sans les cachets que le médecin m'avait prescrits, et dont on devient très vite dépendant. 2 ans après, j'ai été baptisé et j'ai commencé à diminuer largement les prises de cachets, mais j'avais toujours cette victoire à prendre sur l'angoisse. Écoutez bien. En plus, notre frère, parce qu'il est discret, mais vous savez, quand son épouse était enceinte, par exemple, et que lui ne pouvait pas conduire, sa femme était enceinte, les gosses, et il venait, sa femme avait le gros ventre en train de conduire, en train de se faire conduire, mais il ne pouvait pas conduire. Il y a des gens qui l'ont jugé. Mais il faut comprendre l'angoisse les angoisses et les épreuves, parce que quand on a un problème, souvent ça se... Il n'y en a pas qu'un, vous savez, c'est facile de dire qu'il n'est pas gonflé, lui, sa femme est enceinte, et en plus il se fait conduire. Mais vous ne savez pas ce qu'il a traversé. Et il y a 4 semaines, à l'instant même d'une prophétie, le Seigneur m'a accordé la délivrance de 7 ans de souffrance. Depuis, fini, angoisse, cachée, je suis libre de remonter dans une voiture. Vous me ramènerez voir. Hein. J'encourage tous ceux qui sont dans ce cas à ne pas baisser les bras, mais au contraire à se tourner vers le Seigneur Jésus qui délivre de tout. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Voilà. Vous pouvez aller le trouver. Merci, Michael. Ça s'est passé ici, il y a un mois, pendant un culte. Et quand on lit, il a pitié de toutes nos ruines. Autant il faut dire les choses qui ne vont pas, autant il faut dire, mais si votre âme ne va pas, si vous ne faites pas votre culte tous les jours, vous êtes en danger. Moi, je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Mais maintenant, nous devons comprendre que le Seigneur est toujours assis sur son trône, il règne, et il veut régner dans le cœur de ses enfants. Ce qu'il a fait dans la vie de Michael, est-ce qu'il peut le faire dans la vie d'un chrétien ce matin ? Ou est-ce que Dieu a des chouchous dans l'église? Est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce qu'il y a des privilégiés? Est-ce qu'il n'y a pas des chouchous? Ou est-ce qu'on est tous à la même enseigne et que tous on peut faire une expérience? Seigneur, quand je crierai vers toi, tu agiras. Vous l'avez lu le psaume 107? Vous le relirez? Ils crièrent à l'Éternel et Dieu les a délivrés de leur angoisse. Vous discuterez avec Michael, vous discuterez avec son épouse Cécilia, et vous vérifierez que quand on prie de tout son cœur, Dieu est un Dieu qui délivre. Et prendre le pain et le vin, ça devrait être quelque chose de très sérieux, car nous nous souvenons de ce que Jésus a fait, nous nous anticipons sur le fait que bientôt nous serons avec lui dans les cieux. Là, dans les cieux, il n'y aura pas de ruine. Dans les cieux, les maisons, je pense qu'elles seront bien. Vous le croyez? Oui, moi je peux vous le dire. Alors on a chanté mon âme, le cri de mon âme. Qui ce matin veut dire moi mon âme, je veux qu'elle soit en bon état. Je ne veux pas qu'elle soit délabrée comme une ruine. Je ne veux pas rester dans cet état-là de pseudo-piété. Je viens à l'église tous les dimanches, mais je le répète parce que je me sens poussé. Tous ceux qui disent « j'ai pas le temps », si vous saviez dans quel danger vous êtes, quand Jésus va revenir, vous ne serez pas prêts. Si Jésus a pris le temps de nous dire ce que je le dis à tous, veillez attentivement tous les jours, veillez attentivement tous les jours. Vous entendez mes frères et sœurs? On va fermer les yeux tous. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît, prenez quelques frères. J'aimerais que vous répondiez à cette prédication, surtout ceux qui se trompent, parce que vous savez que vous vous trompez. Vous prenez, je l'ai dit tout à l'heure, vous prenez 20 minutes pour aller sur Facebook, Vous prenez 2 heures pour garder les infos. Vous savez prendre 2 heures ou 1 heure le vendredi lorsque vous êtes crevé, comme vous dites, pour aller au resto. Voyez ? Comment vous prenez soin de votre corps ? Je m'adresse à ces frères et sœurs qui sont en danger. Mon frère, ma sœur, Dieu te connaît. Je sais qu'il y a parmi nous des frères et sœurs qui sont dans cette situation. Je le sais. Je me sens poussé à vous le dire une fois encore. Vous qui ne faites votre culte personnel que de temps en temps, vous n'êtes pas prêt. Ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est Dieu qui vous le dit. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Que le nom du Seigneur soit béni pour son amour. On va prier quelques instants. Peut-être que quelqu'un va crier dans son cœur, ce n'est pas la peine de crier à haute voix. Mais dans votre cœur, vous pouvez dire, Seigneur, ce que tu as fait pour Michael, fais-le. Tout à l'heure, il me disait, personne ne peut comprendre la joie que j'ai de ne plus avoir d'angoisse. Si Dieu a permis que Michael fasse cette expérience, et qu'il y en a certains, il me disait, mais j'avais tellement pris l'habitude que j'acceptais ça comme quelque chose de normal. Prendre mes cachets, avoir mal, avoir froid aux doigts, avoir des angoisses, le cœur qui se dilate. J'en étais arrivé à l'accepter. Mais vous croyez que Dieu veut que vous vous habituiez à la souffrance ? Non, Dieu veut que vous soyez délivrés de toutes les souffrances. Je m'adresse à ceux qui sont baptisés par immersion. Levez-vous à votre place avec beaucoup de cœur, vraiment. Levez-vous avec reconnaissance pour prendre le pain et le vin. Peut-être c'est une victoire, peut-être c'est un péché, j'en sais rien. Peut-être c'est quelqu'un de rebelle, car quand même ce matin il y a eu 2 prophéties pour quelqu'un qui est rebelle. Il y a des gens qui sont à carreau avec le péché, mais ils n'ont pas compris qu'ils sont rebelles par rapport à l'autorité. Il y a quelqu'un qui est rebelle par rapport à l'autorité du pays, l'autorité du patron, l'autorité de son foyer. Et vous ne pouvez pas obéir tant que vous êtes rebelle. C'est sérieux, vous savez, les choses avec Dieu. Parfois, on entend les gens dire, on a passé un bon moment ce matin, c'était bien. Écoutez, je ne crois pas que c'est ça le culte. Le culte, ce n'est pas passer un bon moment. Le culte, c'est, oui, je viens adorer Dieu, mais je sais où j'en suis avec, dans mon âme. Alors, prions quelques instants. Surtout vous, frères et sœurs, qui êtes en danger par rapport à votre piété. Notre Père, tu nous as laissé ta parole. Tu nous as tout annoncé à l'avance. Tout. Merci. Merci de nous avoir consigné tout ce que nous avions besoin de savoir. Vraiment, nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Toi qui es le réparateur des brèches. Toi qui as pitié de toutes nos ruines. Ce matin, guéris et délivre. Que ce moment de Sainte-Cène soit un moment de délivrance, de guérison, d'onction, de renouveau. Tu as dit que à nos résolutions répondrait le succès. Tu vois ceux qui sont légers avec toi. Seigneur, s'il te plaît, fais leur grâce ce matin, afin que nous soyons une assemblée prête, sans tâche, pour le jour où tu vas revenir nous chercher. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.